Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioalliance.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». C'est pour une troisième fois que nous recevons Philippe Rey et nous allons aborder aujourd'hui la phytothérapie en Provence et la phytothérapie provençale. Philippe Rey est docteur en langue occitane. Bonjour à vous, Philippe.
Bonjour.
Et merci à nouveau d'être avec nous. Il semble qu'il existe un lien étroit entre les provençaux et les plantes. Quel est-il ?
C'est absolument vrai. Il est fréquent dans la littérature provençale de lire des références aux plantes, alors qu'elles soient médicinales, qu'elles soient aromatiques ou qu'elles soient tinctoriales, puisqu'on utilisait beaucoup les plantes pour teinter les tissus, comme ça se faisait un peu partout d'ailleurs. Donc effectivement, le musée du textile à Orange peut témoigner, puisque toutes les couleurs qui étaient produites venaient des plantes. Donc vraiment, il y avait des qualités.
C'est le pays de Cocagne. Le pays de Cocagne, c'est absolument
ça. C'est la
bleu,
coque. C'est le bleu pastel.
Le bleu pastel d'Albi, c'est le pays de Cocagne.
Tout à fait. D'ailleurs, l'Auragais, ici, il est très beau parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'argent. Il s'est construit des ponts, des édifices, etc., qui sont encore debout aujourd'hui. Et on voit vraiment la richesse grâce à la coque.
Eh oui.
Tout à fait.
Très bien. Donc, on teintait aussi en Provence.
Oui. Oui, tout à fait. Mais effectivement, les plantes médicinales avaient largement leur
vous
place.
Vous avez parlé des plantes aromatiques aussi, c'est important.
Oui, alors
même,
on peut en parler à la fin.
À la fin, d'accord.
Parce que peut-être on va venir sur la cuisine.
D'accord, oui, on parlera de la cuisine orientale.
Un tout petit peu, oui.
Parce que la cuisine, c'est médical. Hein. On dit toujours aux médecins, qu'est-ce que je peux manger ou qu'est-ce que je ne peux pas manger. Ça dépend comment vous le cuisinez.
On a toujours peur de la réponse.
Voilà.
Parce que souvent, ce qu'on aime, il faut s'en priver.
Non, pas toujours, quand c'est bien, c'est pas vrai. Alors, les plantes médicinales provençales.
Alors, les plantes médicinales provençales, bien, déjà, on peut se poser la question, puisqu'on parlait de Mistral tout à l'heure, enfin, dans la dernière émission, eh bien, Frédéric Mistral, il leur apportait un intérêt très particulier, en plus des titres que nous lui connaissons, on peut se demander s'il n'était pas un peu botaniste.
Ah, ça c'est, alors, une nouvelle, c'est une nouvelle corde à son arc. Hein.
Oui, tout à fait. Et le jardin de sa maison à Mayenne est une véritable révélation sur son esprit de botaniste d'ailleurs. Et le fronton de sa maison témoigne de son intérêt pour la chose agricole. En fait, c'est carrément une signature poétique, puisqu'il y a le blé qui est représenté, le raisin, etc.
Vous nous aviez dit aussi, que dans une précédente émission, que son père était quand même, dites-le en Provence.
Ménager.
Voilà. Hein, donc
exploitant agricole. Et voilà,
il aime la terre, il aime le fruit de la terre.
Tout à fait. Mais quand il lui était enfant, d'ailleurs, il lui arrivait de faire l'école bartassière, c'est-à-dire l'école buissonnière. Le bartas, c'est le buisson.
Bartas.
Il faisait l'école bartassière et il adorait aller admirer les iris d'eau qui sont d'un joli jaune, comme on les trouve en Camargue, qui sont magnifiques, c'est fleurs magnifiques.
Il faut absolument aller en Camargue pour voir la période, la floraison des iris jaunes.
C'est magnifique. Et donc, il se rapprochait des...
Galicien, vous avez Galicien vers la Sainte-Marie de la Mer, là, c'est extraordinaire.
Oui, tout à fait. Oui.
Ah, oui, vous avez les marais et puis des iris jaunes.
En Galicien, il y en a pas mal.
Il y en a beaucoup.
Tout à fait. Et il se rapprochait, donc, effectivement...
Il y a du bon rosé aussi, mais... Il y a du bon rosé.
Ah oui, ça je confirme. Ça, je confirme. D'ailleurs, je suis sur le cubi de Galicien en ce moment.
Bon, c'est très bien.
Je passe de bons moments. Voilà, donc, c'est vrai qu'il admirait ses fleurs. Et souvent, eh bien, de trop s'approcher, il tombait dans l'eau. Ah. Alors, quand il rentrait chez lui, il avait du mal à expliquer qu'à l'école, il s'était mouillé le fond de culotte. Et effectivement, bon, on lui en voulait pas trop, mais on lui disait ne recommence pas, ce qu'il faisait d'ailleurs dès qu'il pouvait. Et il était très près de la nature. Et son œuvre est liée à la botanique d'ailleurs. Dans le trésor du Philippe Rige, un dictionnaire de plus de 80 000 entrées, eh bien, il y a pas moins de 326 occurrences qui commencent par herbe. Par exemple, vous lisez le millepertuis, le trescalant, vous lisez casse au diable, herbe de Saint-Jean. Donc, il lève le voile sur tous ces noms d'herbes. Et quand il définit le jardin, eh bien Mistral, il fait dans son dictionnaire la différence entre le jardin fruitier, le jardin fleuri, le jardin horticole et le jardin champêtre. Il fait la différence entre ces jardins parce que pour lui,
c'est, des
c'est
choses
très
différentes,
net. Oui. Et le jardin de sa maison... aujourd'hui ne ressemble en rien à ce à quoi il ressemblait à l'époque de son vivant, même si nous ne savons pas avec exactitude à quoi il ressemblait.
Oui.
On sait ce qu'il avait planté, puisqu'il avait planté deux ormes, 25 lauriers d'Apollon, un parterre de pervenche, provençalité oblige.
Pourquoi ?
Mais parce que la pervenche, c'est le symbole du fait libre de base, le Félibre, quand il démarre au Félibre Rouge, il porte une pervenche. Après, il peut porter une cigale d'argent, de maître d'obre, de maître d'œuvre ou de maître en gai savoir. Et après, il peut porter une cigale d'or quand il est majoral du Félibrige. C'est la consécration, moi. Voilà. Oui, effectivement, j'en suis titulaire.
Dites-le.
J'ai le bonheur d'être titulaire.
Vous avez une cigale d'or, donc.
De la cigale de la Montagne Nègre. Oui, je suis très heureux de ça, d'ailleurs. Très, très heureux.
Très bien.
Voilà. Donc, il avait mis ce parterre de pervenche. Et puis, avec ses arbres, il avait un magnolia aussi. Un arbre de Judée. Et il disait, avec plaisir, « Per un jardin n'est pas plus grand que le moucadou des Mireilles. » Donc, pour un jardin pas plus grand que le mouchoir du Mireille, comme il le disait, dans Mémoire et Raconte, eh bien, la végétation était très présente.
Avec vous, on comprend le provençal.
Ah ben, c'est très proche. C'est très proche. C'est une langue romane, très proche du français, quand même. Et Mistral, donc, il y avait installé une fontaine agricole, alors désespérément banale, parce que sa maison n'était pas la maison d'un quelconque habitant de Mayenne. C'était une maison de notable,
oui.
Avec frontispice, des portraits aux fenêtres, enfin, oui, oui. Des bustes, des sculptures aux fenêtres et tout. Et la fontaine, par contre, c'est une pierre verticale avec un robinet, tout ce qu'il y a de plus banal, parce que Mistral disait d'ailleurs « Sans eau, pas de jardin ». Sans eau, pas de jardin. Donc, il tenait à cette eau. D'ailleurs, il en buvait beaucoup et beaucoup venaient boire l'eau du maître.
Oui.
Elle était très bonne, il se dit. Voilà. Mais plus que tout, on peut affirmer qu'il avait un souci ethnographique aussi. Inconscient, certainement, hein, qu'il a fait s'intéresser aux vertus des plantes. Cela dans le but d'alimenter son dictionnaire, bien sûr. Alors, Mistral botaniste, moi, je pense qu'on peut dire oui.
Oui.
Il était botaniste.
Est-ce que ça a été écrit, ça?
Est-ce
qu'il y a un livre sur Mistral botaniste?
Non, j'ai écouté, mais à très longtemps, une conférence qui faisait état un petit peu de ça. Mais on n'a pas insisté sur le fait qu'il était...
Et je parle botaniste médical, quoi. Hein,
pas, oui, non.
Provençal. Hein.
Non. Mais à cette époque-là, en Provence, c'était une tradition de s'intéresser aux vertus des plantes.
Oui, mais pas qu'en Provence, partout,
et
c'est pour ça.
Donc, il y avait une...
Avec votre accent et vos compétences, on s'intéresse à la Provence.
À la Provence, oui, bah, ma foi. Oui, tant mieux, je vous dirai, tant mieux.
Oui, là, je... Mais Nîmes est quand même un peu en Provence. Hein.
Oui, de tradition. Ben, il faut dire que les églises de Saint-Gilles, Aiguemorte, etc. sont gérées encore par Saint-Victor, par la abbatiale Saint-Victor à Marseille.
Ouais.
Donc il y avait quand même un lien. On est c'est-à-dire qu'on est en bordure du Rhône.
Et Nîmes est situé entre le Languedoc, oui, et la Provence.
Voilà.
Donc elle a pris tout le bien du Languedoc. Vous voyez ce que je veux dire,
oui.
Et tout le bien de la Provence. Nîmes est unique.
Est unique, alors on est peut-être un peu derrière assis entre deux chaises, mais le Gard oriental, c'est vrai, est de culture provençale. D'ailleurs, c'est reconnu.
D'accord.
On porte le costume d'art à Nîmes, etc.
Et donc, comment Mistral est botaniste et s'occupe... Et donc, dans ce jardin, est-ce qu'il, oui, y a des herbes...
Alors, il ne cultivait pas... Les plantes ont pour leur vertu.
Oui.
Il était botaniste, il les connaissait, mais il ne les cultivait pas pour, je pense, que quand s'il avait un petit bobo ou quoi, il allait chercher peut-être en pharmacie une préparation. Il avait vraiment pas le temps à consacrer à cultiver.
Oui, il n'y a pas d'herbier de Mistral.
Non, voilà, il
n'y
a pas un herbier de Mistral. Il n'y a pas un herbier. Il avait certainement des plantes aromatiques, surtout après son mariage. Peut-être que Marie Mistral voulait agrémenter sa cuisine.
Oui, ça
c'est possible. Mais il n'était pas... voilà. Mais en Provence, en tout cas, c'était de tradition de se transmettre la culture de la vertu des plantes.
Oui, et puis dans son œuvre, il le met, dans son dictionnaire.
Oui.
Vous avez dit qu'il y avait plusieurs entrées, plusieurs occurrences.
Mais il le fait surtout avec le regard de l'ethnologue.
Oui, oui.
C'est pas l'écrivain qui...
C'est important quand même.
Voilà.
Parce que
il était ethnologue. D'ailleurs, le musée en latin, quand même...
Ah ben c'est un musée d'ethnologie, c'est certain. Alors, en Provence, il n'y a pas que Mistral, mais... Est-ce que vous pouvez nous parler de la pharmacie à l'hôpital de Carpentras tenue par des religieuses?
Ah oui, alors je l'ai visitée il y a quelques années, je ne suis même pas certain, ou même plutôt certain qu'elle n'est pas du tout, qu'elle ne ressemble pas à ce que j'ai visité, mais j'étais stupéfait. C'était un vestige de beauté et d'histoire, un témoignage vraiment important des qualités de la vertu des plantes, puisqu'à l'époque, vous le savez mieux que moi, la notion de préparation...
c'est important,
beaucoup,
ouais.
Voilà. Mais quand on entrait dans cette pharmacie, très haute de plafond, c'était des murs décorés de superbes pots, avec chacun identifié du nom de la plante qu'il contenait. Et les religieuses, donc, préparaient leur médication à partir de ces plantes. Et quand on visitait cette... On se ramenait à un temps qui nous paraît dépassé. Et pourtant...
Alors c'est dépassé, vous faites bien de le dire, parce que moi, je suis diplômé de phytothérapie, hein, de traitement par les plantes à la fac de pharmacie de Montpellier. Donc, on faisait des préparations magistrales. C'est-à-dire que je prescrivais des préparations magistrales. Donc, la technique, les techniques modernes n'étaient pas l'équivalent du 19e hein, ou du début du 20e. Mais on faisait des prescriptions marginales. Donc, on prescrivait et les pharmaciens me préparaient.
Oui.
Hein,
oui.
Voilà. Et donc, c'était. Et la pharmacie de Carpentras, les sœurs préparaient.
Oui, tout à fait.
Alors, on pouvait acheter, on pouvait aller directement consulter le pharmacien et acheter un baume, un onguent, des tisanes, etc. Mais la phytothérapie était très importante.
D'ailleurs.
Quand on dit phytothérapie, c'est. Il faut y introduire, mais il n'y a pas de terme, aussi des éléments d'animaux. Alors, la pharmacopée, on parle. La pharmacopée,
oui,
à ce
oui.
moment-là. Par exemple, en acupuncture, la pharmacopée. Chinoise, donc il faut se méfier beaucoup parce que les produits, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc il faut respecter les AMM et les produits officiels français. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Mais il y a beaucoup d'animaux. Hein. Malheureusement, il y en a qui disparaissent à cause de ça. Donc dans la pharmacopée, il y a aussi des produits animaux et des produits minéraux. Hein. Mais bon, le sujet là, c'est plutôt la phytothérapie, c'est-à-dire le côté plante.
Plante.
Hein, voilà. Donc c'est quand même le plus gros, si j'ose dire, de la pharmacopée. Traditionnel.
Oui, parce qu'on pourrait parler du lien qu'il y a entre humain, animal, végétal, minéral.
Oui, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui était quand même extraordinaire, prenons un exemple, quand on parle de phytothérapie, la morphine, c'est quand même, vient d'une plante. C'est-à-dire que l'opium vient d'une plante, on récupère, et qui a un effet sur des récepteurs, pour faire un peu technique, mais c'est intéressant, sur des récepteurs humains et animaux
oui.
aussi. Hein.
Mmh.
C'est-à-dire qu'une plante qui pousse en Afghanistan sur les plateaux a des molécules qui correspondent à des récepteurs qui existent sur toute l'humanité, hein, qu'on appelle des récepteurs opioïdes. Donc la morphine a
oui.
été synthétisée, c'est-à-dire qu'après la chimie a permis de prendre justement la molécule qui est simple, qui est plus facile à... Mais quand vous fumez de l'opium, par la fumée, il y a des molécules qui viennent sur vos récepteurs opioïdes et qui vous donnent, donc qui jouent sur la douleur et qui jouent sur des hallucinations du système nerveux. Donc il y a un lien direct entre une molécule produite par une plante et des récepteurs humains ou animaux. Hein.
Oui.
Donc ça montre la globalité quand même de la chimie mondiale et du vivant.
Oui.
Hein. Donc c'est
oui,
pour
oui.
ça que la phytothérapie provençale m'intéresse. Parce qu'on se soigne, mais ce n'est pas simplement des croyances.
Hein. Ah non, non, non.
C'est vraiment une action. La phytothérapie
oui,
a une action. La digitale, pareil, en cardiovasculaire, la digitale que vous pouvez rencontrer en Lozère actuellement avec ses belles fleurs, eh bien, a une action, les digitaliques, sur le cœur. Et on traitait, donc c'est quand même très important. Donc les sœurs de Carpentras faisaient des préparations dans une belle pharmacie.
Oui, très belle, vraiment. Ça méritait le coup d'œil, c'est une œuvre d'art.
Oui, vous pouvez voir par exemple la Pensée d'Esprit, une reproduction d'une pharmacie absolument magnifique.
Oui, oui, c'est vrai.
Mais
c'est
aussi dans les pharmacies dites anciennes, la plus vieille, il y a des herboristeries, il y a une émission, on a fait une émission avec Paul Samut justement sur l'herboriste et la pharmacie, mais la plus vieille herboriste est à Lyon, hein, à côté de la cathédrale Saint-Jean, mais il y en a une aussi à Marseille qui est quand même célèbre, hein. Donc les herboristes ne sont pas les pharmaciens, donc il n'existe plus maintenant les herboristes, les pharmaciens, mais les pharmaciens... ne font plus vraiment de préparation. Alors, Paul Samut, avec qui on a fait une émission, parce qu'il a un site justement de phytothérapie de préparation, on peut se soigner comme ça. Et donc, c'est vrai que la Provence est quand même très importante au niveau des plantes.
Enfin, ah, oui,
dire,
oui,
c'est,
oui.
C'est quand même très important. On retrouve plus de plantes en Provence, aromatiques et phytothérapeutiques, qu'en Bretagne. Enfin, je veux dire, c'est quand même
oui.
le climat est quand même plus favorable. Et alors, bon, sur cette pharmacie, donc elle est magnifique, mais elle est exposée, il n'y a pas de...
Elle était exposée, moi quand je l'ai visitée, elle était proposée à la visite. par les gens qui visitaient l'hôpital, l'ancien hôpital de Carpentras. Et il y avait un passage par la pharmacie qui ne laissait pas indifférent. Et
d'accord, donc pour
moi,
voir...
C'est resté en mémoire.
Ouais, donc pour voir une belle pharmacie ancienne, il faut aller donc à Carpentras,
oui.
C'est à l'hôpital.
À l'hôpital, s'il y est encore, mais je pense que c'est pas quelque chose qu'on a enlevé comme ça. Hein.
Alors je vous propose une trêve musicale, et je ne pouvais pas omettre de vous parler de la Copo Santo, ou Canzone della Copo, je prononce bien ?
Canzone della Copo.
Voilà, hein. Fréquemment désigné comme l'hymne provençal, qui est un chant composé par Frédéric Mistral à l'occasion de la remise de la coupe du même nom par les Catalans aux Provençaux. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Philippe Rey qui nous évoque la phytothérapie en Provence. Est-ce que certaines liqueurs fabriquées par des moines peuvent-elles, à votre avis, être considérées comme des médicaments ? Nous pensons à Frigolet, mais il y a aussi la distillerie d'Aiguebel au cœur de la Drôme provençale, située à Valory, aux confins du Dauphiné et de la Provence. Le domaine d'Aiguebel a été fondé en 1137, entouré de vergers et de lavandes, dans un vallon isolé. Le monastère a grandi grâce aux donations des seigneurs vivant aux alentours. C'est aujourd'hui une distillerie artisanale réputée qui fabrique des sirops et des liqueurs d'après des recettes ancestrales. Les moines de l'abbaye sont des passionnés qui élaborent des élixirs connus dans le monde entier.
Alors en tant que remède, je ne sais pas, en tant qu'élixir c'est sûr, mais en tant que remède je ne suis pas sûr. Les moines avaient quand même le palais très fin et ils n'étaient pas en reste pour trouver les bonnes formules à base d'herbes, ce qui ne nous empêchait pas d'ailleurs de connaître les vertus des plantes afin de soulager certains maux.
Oui, parce que dans les monastères, il y avait ce qu'on appelait l'hostellerie.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
Que l'hostellerie, ce n'était pas un hôpital, c'était un lieu pour les pèlerins, les gens qui pour pas dormir dehors, etc. Mm. Et bien souvent, ils soignaient. Hein, donc, il y avait toujours un moine médecin quoi, hein, qui était un érudit, bien souvent des plantes, hein, et qui soignait ou des gens des alentours venaient se faire soigner chez les moines. Dans la religion catholique et monastique, la tradition du soin, hein, est important. Au Moyen-Âge, on soignait dans les cathédrales. Hein, donc, les médecins étaient bien souvent moines. Enfin, je veux dire, donc, dans les monastères, il y a l'hostellerie, c'est un hôtel, c'est un restaurant où on mangeait, où on dormait, et où on était soigné, où on se soignait. Hein. Sur le chemin de Compostelle, c'était ça.
Ouais, donc, les moines, effectivement, les liqueurs qu'ils composent, alors, elles ont des bienfaits, comme ceux qui font quand on fait la verveine, le genépi, tout ça, c'est à base de plantes, mais ce n'est pas forcément pour soigner, c'est plutôt pour faire passer un bon repas. Quoi.
Oui, mais on prend un digestif pour faire digérer, donc c'est thérapeutique. Quoi.
C'est thérapeutique, finalement.
On prend un apéritif pour donner appétit, donc c'est thérapeutique.
Il n'y a que des plantes dedans, donc ça peut
pas. En principe, avec un peu... Il faut savoir que les plantes, la vertu des plantes a complètement changé avec l'alcool, qui est une invention arabe.
Oui.
Hein, c'est... alcool, ça veut dire esprit fou. Hein. Donc l'alcool, c'est très important parce que en faisant macérer des plantes dans l'alcool, l'alcool tire les molécules, soustrait les molécules efficaces et thérapeutiques des plantes et on fait des teintures qui ont donné. On utilise des teintures en homéopathie, mais les teintures. Alors, quand vous allez en Lozère, c'est quand même pas très loin de la Provence, c'est pas très loin de Nîmes, vous avez une plante qui est une belle plante, une belle marguerite haute qui s'appelle l'arnica. Eh bien, tous les gens du coin, quand ils se promènent, ils prennent des fleurs d'arnica et ils le mettent dans de l'alcool. Hein, il faut de l'alcool fort, hein, il faut de l'alcool à 90, parce que 70... Ouais. Et donc, ils font dans toutes les familles, il y a une bouteille, hein, les anciennes bouteilles d'un litre étoilé qui étaient consignées, mais vous en gardez une, vous mettez des fleurs, vous mettez de l'alcool et vous laissez macérer. Et dès qu'il y a un coup, On ne le boit pas, mais on tamponne et il y a vraiment de l'arnica rentre dans beaucoup de composés pour la cicatrisation, pour les contusions, etc. C'est un très bon remède, c'est vient vraiment de la fleur de l'arnica.
Oui, oui.
Et donc l'alcool, alors évidemment de passer de la teinture à la liqueur, oui. Il suffit de rajouter du sucre.
Oui.
Non, mais c'est vrai que les élixirs monastiques avaient quand même des vertus de santé, enfin du moins ils étaient vendus comme ça. Hein, c'est un slogan. Hein. Telle préparation du moine, ou des moines, ou de l'abbaye, ou du père, hein, je ne citerai pas, mais du père un tel pour les jambes, c'est hein, célèbre, l'abbé Souris est célèbre pour ça, etc. etc. Donc il y avait quand même une connotation monacale, cléricale, plante et thérapeutique.
Hein. Et si on en prenait, mais qu'on ne souffrait pas d'un mal, eh bien, à titre préventif...
Oui, bah, je veux dire, ça ne pose aucun problème. Si vous prenez de la liqueur de frigolet que vous êtes voilà. en bonne santé, vous restez en bonne santé. Il n'y a pas d'effet secondaire, comme on dit maintenant. Et alors, pour se soigner bien souvent, enfin, on parle de remèdes de grand-mère. Hein,
oui.
Alors, c'est de l'automédication, les remèdes de grand-mère, c'est l'automédication. D'ailleurs, actuellement, on y revient. Hein, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, avec la pénurie de médecins, qui est quand même extraordinaire, c'est, hein, ben, les gens ont des modes d'accès aux thérapies différentes. Alors, on a fait avec un pharmacien la consultation en pharmacie, hein, par télécabine. Donc, on consulte les médecins à distance, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation. Et puis, on revient à l'automédication. Alors, il y a la médication des pharmaciens. Les pharmaciens deviennent conseils, hein, ils ont un devoir de conseil. Mais les pharmaciens, maintenant, ont leur compétence élargie, puisqu'ils vaccinent et c'est pas... Moi, quand j'ai commencé médecine, si un pharmacien avait vacciné, il avait un procès à l'ordre. Quoi. Mmh. Maintenant, au contraire, tout le monde va se faire vacciner dans la pharmacie, donc tout change. Et les gens se tournent vers l'automédication. Donc il faut être extrêmement prudent là-dessus. Hein. Vraiment, il faut être prudent. Mais dans la Provence du 19e, début du 20e qui nous intéresse, eh bien, il y avait ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère, c'est-à-dire l'automédication, qui était bien souvent basée sur la phytothérapie. Hein. Est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que vous avez...
Oh, moi, je me rappelle mon arrière-grand-mère quand alors elle avait le biais pour faire son aigue boulide.
Et alors, l'aigue boulide, c'est quoi ?
Ça ouvre la vide. Eh ben, c'est de l'eau bouillie, comme on le dit, avec une goutte d'huile d'olive, un brin de sauge, et puis on pouvait y cacher une biscotte dedans, quand même.
Une biscotte ?
Oui.
Annie, on met du pain.
Oui, ben voilà. Voilà, ma arrière-grand-mère, elle mettait une biscotte dedans. Et c'était censé, nous, si on avait eu un repas un peu lourd...
De vous faciliter. Alléger, la biscotte allégée.
Oui. Et on disait, l'aigue boulide sauve la vide.
Alors vous savez que la biscotte est très grasse, en fait. Hein,
oui.
C'est une invention vénitienne. Pour pouvoir garder du pain en voyageant. Donc, c'est du pain qui est, hein, qui est particulier. Évidemment, la biscotte, on peut, pendant 2 mois, l'avoir en mer, il n'y a pas de problème.
Pas de problème.
Donc, vaut mieux prendre du pain, c'est moins gras que la biscotte au niveau.
Mais c'est vrai que c'était... Après, il y avait beaucoup de propositions. Quand moi, j'étais jeune, hein, j'étais minot, et pendant la croissance, elle me faisait volontiers... elle me mettait un demi-abricot dans un verre. Quand je dis un demi-abricot, c'était un petit melon.
Hein, oui, les abricots d'avant. Oui.
Et avec du vin, alors que j'étais minot. Hein.
Ah, donc
Le vin chaud sucré, je le buvais à la maison.
D'où votre appréciation du rosé de Galicien.
Oui, mais je n'ai jamais trop abusé parce que je suis resté au sirop de menthe pendant jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc ça m'a
mais
pas...
la menthe en phytothérapie, c'est très important aussi.
Oui. Ça ne m'a pas... Quoique la menthe, c'est aussi une plante.
C'est une plante thérapeutique. Oui. Oui. Et alors, est-ce que dans vos recherches et des travaux, vos lectures en provençal, dans les écrits de la littérature provençale, vous avez trouvé des secrets sur la phytothérapie provençale ? Alors,
des secrets, non. S'il y a des secrets, ils sont bien gardés.
Définition du secret. Mais
oui,
on peut...
Il y avait une transmission qui se faisait. Moi, je sais que mon arrière-grand-mère a confié à ma belle-mère, quand elle allait mourir, des secrets de cuisine, par exemple.
Mm-hmm.
Il y avait une transmission qui se faisait au dernier moment. Par contre, les secrets, ben, comme on dit, si c'est des secrets, ben, puis moi, à l'âge que j'avais, je ne m'intéressais pas trop à ce genre de choses, à la cuisine. Voilà. Même si je mangeais des bonnes choses quand même.
Oui, mais ça, je pense que vous devez avoir une grand-mère qui vous s'occupait bien.
Écoutez, moi, les plantes, c'est pour parler par exemple d'une plante, la truffe.
Ah oui, c'est un champignon, c'est une plante.
Elle disait à son fils, oui, Alors, je ne sais pas si c'est un champignon ou si c'est une plante, la truffe.
C'est un champignon.
C'est un champignon. Elle disait, va me chercher 3 truffes. Et mon oncle m'avait mené avec lui.
Et il trouvait les truffes.
Ah, il trouvait les truffes.
Avec un chien?
Non, avec la mouche. Il battait le romarin. Dès qu'une mouche décollait, il la suivait. Alors, si elle se reposait dans du romarin, il donnait 2 coups de bâton dans le romarin. Et elle finissait par se poser au pied d'un
pin. Il ne vous a pas donné le secret de comment trouver les truffes?
Ben si, il suivait la mouche.
Vous savez trouver des truffes avec des mouches?
Avec la mouche. Et je peux vous assurer qu'il prenait que ce qu'il fallait. Alors, des fois, c'était des petites, excusez-moi l'expression, des couilles de rat.
Oui.
Des petites truffes. Mais enfin, il en prenait pour faire la salade du jour. Et c'est tout.
Donc, la prochaine fois, on fait une émission avec des truffes sur place pour nos auditeurs, pour l'odeur.
Sur place, c'est ça. J'ai jamais été curieux d'éprouver ça. Mais c'est un terrain où, d'ailleurs, quand j'y passe devant, j'ai un peu... le cœur fendu dans le village de la Motte d'Aigle, qui avait 200 habitants à l'époque. Maintenant, il y en a plus de 1000. Mais j'ai le cœur fendu parce que ce grand bois où il allait chercher les truffes, c'est tout est construit maintenant.
Et
il trouvait les truffes comme ça, mais il ramenait que ce qu'il fallait. Donc, en fait, la nature était quand même une terre nourricière aussi.
Très bien. Alors, vous nous avez parlé des secrets de cuisine. Donc, évidemment, il devait y avoir des secrets thérapeutiques
oui,
de plantes.
De
mais aussi, c'est une question hors sujet, mais qui m'intéresse. Est-ce que les dons, les secrets, vous avez retrouvé des traces de quand on passe pour passer le feu, etc., etc.
Non. Ça, là, non. Moi, j'ai jamais eu la curiosité de creuser ce.
Voilà.
Non,
mais c'est pour savoir. C'est une question un peu personnelle.
J'ai jamais creusé. En plus, il est certain que si mon arrière-grand-mère a confié à sa petite-fille un secret de cuisine, quoi, elle l'a gardé pour elle.
Oui,
par contre, je n'ai pas entendu dire qu'elle l'avait transmis à ma sœur.
D'accord. Ouais. Elle est passée directement à la petite-fille.
Oui, elle est passée à la petite-fille, oui.
Ah ouais,
oui. Et c'est, ben oui, parce qu'après, bon, il y a eu des séparations.
Oui,
bon,
oui.
Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'elle était cuisinière au Grand Raguenau à Marseille, dans un grand restaurant. Et elle avait quand même une tournure... Moi, je mangeais des œufs brouillés au mori, des bécasses, des choses comme
mais
ça.
Mais c'est
quoi.
Une émission qui nous donne faim.
Voilà.
On est parti de la phytothérapie et c'est une émission, on finit avec le menu du jour. Hein.
On arrive à l'apéritif bientôt.
Écoutez, ben, Philippe, on vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous apportez, de votre expérience. Hein. Je crois que c'est important de cette vie que vous avez vécue en Provence, hein,
oui,
avec votre famille,
oui.
Votre expérience qui est illuminée par votre accent et votre joie de vivre. C'est un grand plaisir de vous écouter et c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, de vous poser des questions et même de digresser. C'est des fois plaisant de digresser. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté. C'est un vrai plaisir des oreilles et du palais.
Oui, en même temps, oui.
Alors, j'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Est-ce que vous avez des livres sur la phytothérapie provençale?
Il en existe.
Oui.
Moi, personnellement, j'ai pas eu le loisir de m'y intéresser plus que ça, parce que, bon, vous savez, quand on est chercheur, on ne lit pas les livres qu'on veut.
Oui.
On lit les livres qu'il faut lire.
Qu'il faut lire.
Et j'en suis là, et un de mes rêves aujourd'hui, ben, c'est un jour de pouvoir lire ce que j'ai envie de lire.
Bon.
Donc j'ai beaucoup de livres qui sont sur la file d'attente.
Bon, mais on vous souhaite de faire de beaux rêves, alors avec la lumière de la Provence.
Mais la phytothérapie, je me suis beaucoup intéressé dans ma thèse, puisque Galtier avait rendu hommage à un de ses maîtres.
Ça, j'ai bien compris que vous vouliez qu'on fasse une émission sur Galtier, la phytothérapie.
Ah, sur Galtier, en tout cas.
Sur Galtier, la phytothérapie, parce qu'il faut un sujet médical.
Oui, oui.
En tout cas, merci encore de votre accent, de votre lumière, de
le
vos couleurs
et
de la Provence que vous faites rentrer dans nos micros qui vont jusqu'aux oreilles de nos auditeurs. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion de Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.